Nous lisons Ézéchiel, chapitre 37, verset 1er. La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée, et ils étaient complètement secs. Il me dit, « Fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre ?» Je répondis, « Seigneur éternel, tu le sais. » Il me dit, « Prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ces eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair, je vous couvrirai de peau, je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu, et comme je prophétisais, il y eut un bruit, et voici, il se fit un mouvement, et les eaux s'approchèrent les uns des autres. Je regardai, et voici, il leur vint des nerfs, la chair crut, et la peau les couvrit par-dessus, mais il n'y avait point en eux d'esprit. Il me dit, prophétise et parle à l'esprit, prophétise, fils de l'homme, et dites à l'esprit, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, esprit, viens des quatre vents, souffle sur ces morts, et qu'ils revivent. Je prophétisais, selon l'ordre qu'il m'avait donné, et l'esprit entra en eux, ils reprirent vie, et ils se tinrent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Amen. Est-ce que c'est facile à lire toutes ces choses? Vous avez essayé d'imaginer? Ça fait froid dans l'eau. Quelque chose digne d'un film hollywoodien. Imaginez-vous, vous êtes Élisée. D'accord? Vous êtes Élisée. Vous vous retrouvez dans un moment de communion avec Dieu, d'un coup transporté quelque part, dans une vallée, comme dans un cimetière, avec plein d'os de partout. Vous voyez des eaux, vous marchez au milieu, plein d'eau, et vous remarquez que les eaux, ils sont secs. Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et Dieu vous parle et vous pose cette question. Tiens, est-ce que ces eaux peuvent revivre? Voilà qu'Ézéchiel, lui, il a répondu, Éternel, tu le sais. Et il dit, voilà, tu vas parler à ces eaux, tu vas prophétiser, tu vas parler. Vous savez qu'une prophétie, c'est dire quelque chose de la part de Dieu, c'est pas que des choses sur l'avenir. Et il se met à parler, et voilà que d'un coup, il voit les eaux, qui commencent à bouger, à former un squelette, des nerfs commencent à se mettre au milieu, la chair qui commence à croître, la peau qui recouvre tout. Il y a un corps qui se forme, mais ce corps est mort. Ces corps sont morts. Il n'y a pas encore d'esprit. Dieu lui reparle et lui dit, voilà, maintenant tu vas parler à l'esprit. L'esprit va venir et il va redonner vie à tous ces corps. L'esprit vient, tous ces corps se remettent à vivre et ils se tinrent debout, ils étaient très nombreux et ça fait toute une armée. Vous l'aviez imaginé? Quand j'ai fait une pause sur ce texte, ça m'a fait tout bizarre. Tout bizarre. Et j'ai dit, mais pourquoi Dieu a-t-il dit ça dans la Bible? Pourquoi ça s'est inscrit dans la parole de Dieu? L'explication de cette vision ou de cette chose qu'il a vraiment vécue, je ne sais pas, ce n'est pas précisé, c'est que Dieu est en train de voir un peuple nombreux, le peuple hébreu, le peuple juif qu'on pourrait dire aujourd'hui. Dieu voit ce peuple, un peuple nombreux, et il dit il est comme mort. Il est comme mort, il est comme séparé de Dieu. Dieu l'avait prévu, Dieu l'a créé ce peuple, puisqu'il est né de 3 générations de femmes stériles. Dieu l'a fait en sorte qu'il existe, parce qu'il voulait une intime relation avec ce peuple. Et puis voilà que le peuple a péché, s'est détourné de Dieu, et il est comme mort spirituellement. Et puis Dieu va dire, voilà, ce peuple, ses eaux, toutes ces choses-là, c'est le peuple d'Israël. Il est comme mort, mais est-ce que tu crois que Dieu peut à nouveau le ramener à lui, se réconcilier à lui et à nouveau le restaurer, lui redonner vie? Et l'intime relation qu'il y a entre Dieu et les hommes, est-ce qu'elle peut être recréée avec ce peuple d'Israël? Et puis voilà que Dieu annonce que c'est ce qui va se passer. Et à nous qui sommes enfants de Dieu, à nous qui sommes chrétiens, à nous qui faisons partie du royaume de Dieu, j'aimerais poser cette question, est-ce que nous réalisons que ce qu'Ézéchiel a vécu, que ce que Dieu a dit à Ézéchiel, c'est exactement ce que Dieu nous demande à nous. Peut-être pas avec le peuple d'Israël, mais nous faisons partie d'une génération. Nous faisons partie d'un pays, d'une langue, avec des personnes qui parlent la même langue que nous, avec peut-être une ville dans laquelle nous habitons. Nous savons, comme on l'a entendu ce matin, que Toulouse, c'est au moins 1 million et quelques d'habitants, Toulouse et ses environs. Il y a une multitude autour de nous qui ne connaît pas le Seigneur. Et Dieu dit qu'ils sont comme morts spirituellement. Ils ne connaissent pas Dieu. Être mort spirituellement, c'est tout simplement être séparé de Dieu. Ne pas le connaître. Comment on est séparé de Dieu? À cause du péché. Et nous qui sommes enfants de Dieu, nous savons ces choses. Nous avons rencontré le Seigneur. Nous avons été réveillés. Nous avons eu notre conscience, notre esprit, qui est devenu d'un coup sensible aux choses spirituelles, aux choses de Dieu. La grâce de Dieu nous a touchés. On a confessé nos péchés, on a accepté le Seigneur. Et aujourd'hui, nous vivons, spirituellement parlant. Mais autour de nous, il y a toutes sortes de personnes qui ne connaissent pas l'amour de Dieu. Toutes sortes de personnes qui se suicident par désespoir. Ils vivent bien physiquement parlant, mais il n'y a pas d'épanouissement dans leur vie. Quand on regarde le nombre de divorces, quand on regarde le nombre d'échecs, le nombre de dépressions, le nombre de personnes qui s'auto-détruisent parce qu'ils n'ont plus foi en la vie, parce qu'ils ne croient plus que la vie leur est favorable, peut leur être favorable, peut être bonne à vivre, agréable, à parcourir. Alors ils sont comme désespérés, comme morts intérieurement. Sommes-nous conscients que la mission que Jésus a laissée à tous les croyants qui viendraient après lui, c'est de parcourir le monde entier pour annoncer une bonne nouvelle? Avons-nous conscience de ces choses? Que Dieu veut que nous soyons un peu comme Ézéchiel, à poser nos regards sur toutes ces personnes qui paraissent secs à l'intérieur, comme ces eaux qui étaient secs, plus d'espoir, plus de vie. Et Ézéchiel s'est retrouvé là et Dieu lui a posé une question qu'il pourrait nous poser à notre tour. Crois-tu que ces ossements peuvent revivre? Et à nous, le Seigneur pourrait nous dire, mais crois-tu que ton voisin de palier, il peut rencontrer le Seigneur et être sauvé? Crois-tu que ton patron, crois-tu que ton collègue de travail, crois-tu que tes enfants, crois-tu que tes parents, crois-tu que quelqu'un de ta famille qui ne me connaît pas encore peut me rencontrer et être sauvé? Avez-vous encore cette foi que les gens autour de vous peuvent rencontrer le Seigneur et découvrir la grâce et son amour? Avez-vous encore cette sensibilité envers ceux qui sont morts spirituellement? Une question que Dieu pourrait nous poser, et je crois que Dieu nous pose cet après-midi. Est-ce qu'on est encore sensible, ou est-ce que pour nous ce ne sont que des os morts? Oh, pour lui, pour un tel, c'est même pas la peine que je parle de Dieu, ça vaut pas la peine. Pour lui, c'est fini, plus d'espoir. Oh, tu sais, mais j'ai tellement parlé, ça vaut plus, j'arrête. J'ai tellement été déçu, ça ne servit à rien. Etc, etc. Mais le Seigneur, il voudrait nous rappeler cet après-midi qu'à chacun d'entre nous qui avons cru, nous avons ce rôle, cette mission de partager la bonne nouvelle, d'intercéder, d'être des gens qui témoignent de la gloire de Dieu, de l'œuvre de Jésus sur la terre. Dieu veut nous utiliser à chacun. Personne n'est mis à l'écart. Qui peut dire, non, moi j'ai pas reçu ce commandement de Dieu. J'ai pas reçu cette mission de la part du Seigneur Jésus. Quand il m'a sauvé, c'était que pour moi. Mais c'était pas pour les autres. Qui peut dire ça? Après avoir lu la parole de Dieu. Personne. Personne. Quand on a découvert la grâce de Dieu, quand on a été au bénéfice de sa miséricorde et de son pardon, Dieu nous a laissé une tâche. Ce que tu as reçu, partage-le. Ce que tu as reçu, dis-le autour de toi. Ne te tais pas, mais parle. Est-ce qu'on a encore ce fardeau pour les âmes perdues dans notre cœur? Est-ce qu'on a encore ce souci de dire, ah, j'ai plus d'évangile, je vais en reprendre un pour en distribuer. J'ai plus ceci ou j'ai plus de paroles à dire, Seigneur, remplis-moi pour que j'ai à nouveau un témoignage à rendre, que j'ai à nouveau du zèle pour dire autour de moi combien Dieu est bon, combien Dieu m'a sauvé, a été miséricordieux envers moi. Est-ce qu'on a ce souci? Ézéchiel va recevoir une parole particulière. Comment accomplir la mission? Trois choses importantes. La première, c'est de réaliser qu'il faut être sensible à la voix de Dieu. Ézéchiel était un homme qui avait une intimité avec Dieu. Et quand Dieu lui a parlé, il a pu reconnaître la voix de Dieu. Beaucoup de personnes disent à tout va, Dieu m'a parlé, Dieu m'a parlé, Dieu m'a parlé. Mais ils ne lisent jamais la Bible. Ils ne prient jamais et on ne les voit jamais au milieu de nous. Par contre, Dieu leur parle tout le temps. Et ils prennent des décisions, on dit, mais c'est pas comme ça, la Bible a dit autrement. Oui, mais Dieu m'a parlé. Et au final, on voit que c'était pas Dieu qui avait parlé. Et d'autres, à l'inverse, ils n'entendent jamais Dieu leur parler. Et j'aimerais régler ça cet après-midi. Comment est-ce qu'on sait que Dieu nous parle? Ce n'est pas une voix d'un coup qui apparaît. Ce n'est pas une voix, ça peut, Dieu peut se faire entendre une voix, bien sûr, moi je crois. Mais la plupart du temps, ce n'est pas comme ça. Dieu nous parle ne serait-ce que par la parole de Dieu. Quand je lis l'Évangile et que je vois que Dieu a tant aimé le monde, je sais que Dieu me parle et me dit, toi aussi, je t'ai aimé, etc., etc., ne serait-ce que par la parole. Puis, quand il y a une conviction dans mon cœur qui s'installe après la prière, pendant la prière, pendant la méditation de la parole, ou alors que je demande à Dieu, Dieu me parle. Mais il faut une intimité avec Dieu. Ézéchiel était un homme de prière, j'en suis certain. Ézéchiel était prophète, c'est-à-dire quelqu'un qui avait une intimité avec Dieu et qui recevait une parole de Dieu pour la transmettre. C'est exactement le rôle que nous avons chacun, de devoir passer du temps devant le Seigneur pour recevoir une pensée de sa part, pour être convaincu et pour après parler aux autres en étant convaincant et puis en transmettant simplement le message que Dieu a donné. Première chose, c'est d'avoir une intimité. Avez-vous, avons-nous une intimité avec le Seigneur pour reconnaître quand il nous parle, pour reconnaître quand c'est lui qui nous inspire, quand c'est lui qui nous guide, qui nous dirige. Quelquefois, vous avez peut-être des questions, un choix dans votre vie à faire, un choix important. Et bien souvent, on ne prend pas la peine de demander à Dieu, dire « Seigneur, conduis mes pas, ferme les portes par lesquelles je ne dois pas passer et ouvre les portes par lesquelles je dois passer et lesquelles je dois emprunter. Seigneur, conduis mes pas, garde-moi de me tromper et éclaire-moi sur ce que je dois faire. » Et bizarrement, comme par hasard, les choses sont conduites et inspirées de Dieu. Et un chemin que j'allais prendre, d'un coup je réalise que j'allais me tromper. Et un autre chemin pour lequel j'avais déjà moi-même fermé la porte, je réalise que Dieu avait un plan derrière. Très important. Dieu nous parle, Dieu veut parler. Mais il attend qu'on ait le cœur ouvert. Avoir une intimité avec Dieu. La deuxième chose, Ézéchiel a reçu une parole de Dieu particulière, Dieu lui parle et il lui dit, prophétise et il leur dit, dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, etc. Il lui donne un message, il lui donne de quelque chose de précis. Et la seule chose qu'Ézéchiel a à faire, c'est de répéter ce message. Il n'a pas à inventer quelque chose, et bien des fois, on a l'impression qu'on n'a pas le témoignage qu'il faut, qu'on n'a pas le vécu ou les paroles qu'il faut pour parler, il n'y a rien à faire d'autre que de raconter la vérité et ce que Dieu a écrit déjà dans la parole de Dieu. Souvent, des gens culpabilisent et disent « Mais moi, j'ai rien à raconter, j'ai pas de témoignage à donner parce que c'est tellement misérable à côté de d'autres. Ils ont été délivrés de la drogue, ils tuaient, ils étaient proxénètes et ils ont été délivrés, pardonnés. Et moi, j'ai jamais rien fait de tout ça. Qu'est-ce que je vais dire? Ça vaut pas la peine? Ça frappe pas les regards? Mais rien que ce que vous avez vécu, c'est ce que Dieu a fait dans votre vie. Et ça suffit pour interpeller quelqu'un, si c'est dit avec honnêteté, sans trafiquer, sans mentir, sans embellir ou chercher à modifier les choses, simplement comme les choses se sont passées. Quelqu'un est venu un jour dire à un aveugle qui avait été guéri par Jésus, « Oui, Jésus c'est un pécheur. » L'aveugle a dit, « S'il est pécheur, j'en sais rien du tout, moi c'est pas ça. Ce que je sais, c'est que j'étais aveugle et qu'aujourd'hui je vois. » Voilà, il n'y a rien d'autre. Ce que je sais, ce que je suis sûr, c'est que j'étais aveugle et qu'aujourd'hui je vois. Il n'y a pas à raconter d'autre chose, il y a à raconter ce dont je suis convaincu. Dans la parole de Dieu, il est écrit quelque chose, et je le disais encore hier matin. Il est dit, je ne m'occupe pas des choses trop élevées pour moi. Et peut-être on ne comprend pas tout de la parole de Dieu, mais ce qu'on ne prend pas, on le laisse, et on dit, Seigneur, tu m'éclaireras, mais ce que j'ai compris, je veux le raconter. J'ai compris que Dieu aimait le monde. J'ai compris que chaque être humain avait sa place dans le cœur de Dieu. Chaque être humain avait de la valeur aux yeux de Dieu. Voilà ce que je peux dire. Ce que je sais, c'est qu'on peut être pardonné de nos péchés parce que j'ai la conviction intime que j'ai été pardonné. Je ne peux pas vous l'expliquer. Ce que je sais, c'est que c'est pour moi que Jésus est mort. N'essayez pas de l'expliquer, de raisonner. Il n'y a pas besoin. Dieu n'a pas raisonné en commençant la Bible. Il a dit au commencement Dieu. Il n'a pas dit, voilà, je vais vous démontrer que j'existe. Il a dit au commencement Dieu. Il n'a pas cherché à prouver les choses. Il a dit la vérité. Et ce qui a une force, ce qui est approuvé de l'Esprit de Dieu, ce qui va convaincre, c'est quand on ne ment pas, c'est quand on dit la vérité avec honnêteté et simplicité. Il y a un autre texte qui dit « J'ai peur que vous vous détourniez de la simplicité de Christ ». Il n'y a pas à être compliqué, il faut être comme des enfants. Ce qu'on comprend, ce qu'on reçoit, il faut le donner tel qu'on l'a reçu. Je pourrais vous donner un exemple. Ce que je sais, c'est que Dieu guérit. Je ne vais pas vous expliquer comment il se débrouille, quel ange descend du ciel, comment fait l'Esprit de Dieu. Ce que je sais, c'est que Dieu guérit. J'avais l'hépatite B, j'ai été guéri de l'hépatite B. Vous me l'expliquez comme vous voulez, je ne peux pas vous l'expliquer moi. Ce que je sais, c'est qu'après la prière, Dieu m'a guéri. Ce que je sais, c'est que j'avais besoin de greffe au front parce que j'ai été brûlé. Et qu'après la prière, eh bien, le Seigneur a posé sa main. Le lendemain, lorsque je devais être greffé, on a dit, ben, ça sert à rien, ça repousse. Alors que ça faisait plus d'une semaine que ça repoussait pas. Je vous dis pas comment Dieu l'a fait. Est-ce qu'il a créé des nouveaux atomes pour reconstruire la peau? Est-ce qu'il a, je sais pas comment il a fait. Et après tout, c'est pas grave, ça. Ce que je sais, c'est que Dieu est le créateur. Et il sait comment il nous a créés, donc il sait comment nous guérir. Il n'y a pas mieux, meilleur médecin que lui. Voilà ce que je sais. Et chacun d'entre nous, même si on n'a pas compris beaucoup de choses, on a quand même compris certaines choses. Et ce qu'on a compris, il nous faut le raconter. Et cherchons pas des grands raisonnements, des grandes pensées. Ce qui est trop élevé, laissons-le pour les autres. Ce que j'ai compris, je vais le dire avec simplicité. Voilà, avec simplicité. Si vous avez goûté à la paix de Dieu, je peux vous dire que vous avez des choses à raconter. Vous avez des choses à dire. Vous pouvez dire que la paix de Dieu peut consoler un cœur, peut venir rassurer un cœur. Si vous voyez quelqu'un de dépressif, vous pouvez lui dire « Moi, je connais quelqu'un qui va te donner la paix. » Et rien que dans vos yeux, dans votre regard, sur votre visage, la personne va voir que vous êtes honnête, que vous êtes vrai, et va être convaincue. Pas par vous, mais par l'Esprit de Dieu qui agira derrière. Amen. Transmettre simplement le message du Seigneur. Et puis, comme je l'ai dit, être sensible à la voix de Dieu, avoir une intimité, raconter le message, comme Dieu l'a dit, puis j'ai anticipé un peu avant, est-ce que ça me fait toujours quelque chose que de savoir que les gens sont sauvés ou pas? Et là, je vais rentrer un peu dans le détail, vous voyez qu'il y a deux parties. Ça s'est fait en deux étapes. Il y avait des os tout secs. Et Dieu a commencé par restaurer le corps. Vous avez vu, les os, ils ont commencé à se rassembler. C'est un truc incroyable. Les os ont commencé à se rassembler, les nerfs ont poussé, la chair a poussé, et l'eau a la peau a recouvert tout ça. Ça a fait un corps. On aurait pu dire, ah ça y est, c'est bon, le Seigneur a agi, on arrête là. Mais non, il est écrit qu'ils étaient encore morts. Et peut-être quelqu'un dans votre famille a vécu une expérience avec le Seigneur, a été guéri dans son corps, a vécu quelque chose de fort avec Dieu, il a fait une expérience. Et vous vous dites, il doit être sauvé puisqu'il a fait une expérience avec Dieu. Un jour, quelqu'un qui vivait dans l'adultère m'a dit, mais je suis béni de Dieu, c'est sûr que je suis sauvé. Dieu me bénit, c'est sûr que je suis sauvé. Cette femme avait une relation avec quelqu'un d'autre que son propre mari, et elle me disait, mais je manque de rien, Dieu bénit mon travail, c'est sûr que je suis sauvé. Vous voyez comme quoi on peut confondre une guérison, une grâce de Dieu physique, avec la nouvelle naissance, qui est le signe véritable du salut. Et quelquefois on s'arrête à une belle expérience, peut-être parmi nous des gens ont fait une belle expérience avec Dieu, un jour j'ai été guéri, un jour ma mamie a prié pour moi et j'étais malade, j'étais enfant et j'ai été guéri, vous voyez c'est comme quoi j'ai la grâce de Dieu sur moi, je suis sauvé. Mais c'est pas comme ça qu'on voit si les gens sont sauvés, c'est pas comme ça qu'on sait si on est sauvé. Vous savez comment on sait si on est sauvé? Eh bien ces corps qui étaient allongés, qui étaient sans vie, ils ont dû recevoir l'Esprit de Dieu qui les a vivifiés et qui ont fait qu'ils ont pu se lever. Comment savoir si je suis né de nouveau? Eh bien, je me lève pour servir Dieu. Ils se sont levés et ils ont été une armée. Quelqu'un qui dit « je suis sauvé » mais qui n'a pas le souci de faire la volonté de Dieu doit se poser la question « est-ce que je suis réellement né de nouveau ou est-ce que j'ai juste fait une expérience dans le passé ?» Est-ce que je suis réellement né de nouveau ? Et peut-être que vous avez prié pour quelqu'un pour qu'il soit guéri, la personne a été guérie, la personne a été touchée dans son corps, et puis vous avez dit, ça y est, j'ai fait mon travail, j'arrête. Non, il faut continuer à prier, il faut continuer à lui rendre témoignage, il faut continuer à lui parler jusqu'à ce que cette personne elle-même se mette à vivre pour Dieu, à vivre pour Jésus-Christ. Tant que la personne ne vit pas pour le Seigneur, elle n'est pas sauvée. Puisque quand quelqu'un a la foi qui sauve, il se met à faire les œuvres pour Dieu. On n'est pas sauvé par les œuvres, mais on est sauvé pour des œuvres. Vous en souviendrez. On n'est pas sauvé par nos œuvres, on est sauvé par la foi en Jésus-Christ. Mais on est sauvé pour des œuvres. Et la personne qui, soi-disant, est sauvée, mais qui reste allongée, qui ne fait rien, elle est en danger. Et je ne mets pas une menace sur votre vie, je ne fais pas tout ça. Je cherche à vous aider au maximum. Et je dis ça en toute humilité, je veux le dire, et je me mets avec vous, je me parle à moi-même le premier, Jérémie. Toi qui crois être sauvé, est-ce que tu es debout pour servir Dieu avec joie? Est-ce que tu as donné ta vie pour Jésus? Est-ce que tu vis pour lui et plus pour toi? Est-ce que tu t'es levé pour le servir? C'est très important. Et c'est comme ça que je verrai. Est-ce que j'ai du zèle, de la volonté, du zèle, oui, pour servir Dieu? Ou est-ce que je traîne la patte pour faire simplement ce que la religion m'impose? Parce que c'est pas parce que je suis debout devant vous en train de vous parler que je fais la volonté de Dieu ou que je la fais avec joie ou de bon cœur. Et chacun doit se poser pour notre part la question, est-ce que ma vie est utile dans les mains de Dieu? Est-ce que j'ai à cœur de faire la volonté de Dieu? Est-ce que j'ai compris que ma mission, c'était de partager ce que j'avais reçu? Est-ce que ma vie est employée pour ça? Vous comprenez ce que je veux dire? Et attention, je ne suis pas en train de juger en disant ça. Au contraire, je suis en train de réfléchir avec vous sur ce que Dieu nous dit. Et il ne faut pas s'arrêter à des choses qui touchent au physique. Est-ce que c'est important de prendre soin de son corps? Bien sûr. Je l'ai dit mardi soir. Est-ce que c'est important de se mettre un peu de parfum? Bien sûr, si on l'a à cœur. Est-ce que c'est bien? Ben c'est bien. Est-ce que c'est important de se faire la toilette tous les jours? Est-ce que c'est important de se nourrir? Est-ce que c'est important de dormir? Mais tout ça, c'est très bien, prendre soin du corps. Est-ce que c'est important de prendre des bons vêtements, de prendre un vêtement, de s'acheter un manteau quand il fait froid, etc.? Ben bien sûr, tout ça, c'est très important. Mais c'est pas ça le signe de mon salut, que tout mon corps est en bonne santé. Je saurai que je suis sauvé si je me suis levé pour servir le Seigneur. Vous avez vu, ils se sont levés comme une armée. Très nombreuses. Très nombreuses. Et on sait que les gens qui sont perdus sont très très nombreux. Et des gens croient en la religion. Nous-mêmes, peut-être au milieu de nous, on a adhéré à une religion. On fait les choses parce qu'il faut pour mériter le salut. On croit que si on fait ci, si on fait ça, de sûr on est sauvé, on va mériter. C'est pas en méritant qu'on est sauvé. On a le salut du moment qu'on croit dans le sacrifice de Jésus et sa résurrection. Donc qu'on croit qu'il est le Fils de Dieu venu pour nous sauver. C'est aussi simple que ça. Qu'il est mon sauveur personnel. Avons-nous compris, nous qui sommes enfants de Dieu, qu'il y a une mission pour nous, qu'il faut veiller à avoir une intimité avec Dieu, qu'il faut veiller à transmettre le message de Dieu et qu'il faut veiller à avoir le fardeau des âmes jusqu'au bout, être comme des pères et des mères pour ceux qu'on en amène au Seigneur, comme ces brebis qui avaient des jumeaux en elles. Elles étaient enceintes, elles avaient des jumeaux. Et chacun d'entre nous, nous sommes comme des brebis, Jésus le bon berger. Et puissions-nous avoir tous des jumeaux en nous, amener des âmes au Seigneur, les porter, souffrir les douleurs de l'enfantement pour ces personnes, comme Paul qui pouvait dire, je souffre les douleurs de l'enfantement pour vous. Avoir un cœur, et pas juste pour qu'elles fassent des expériences, ces personnes, mais pour qu'elles donnent leur cœur au Seigneur, qu'elles donnent leur vie, et qu'elles se mettent à vivre pour le Seigneur, qu'elles-mêmes, elles se lèvent pour partager aux autres ce qu'elles ont reçu. Et jusqu'au bout, j'intercède jusqu'à ce qu'elles soient nées de nouveau, jusqu'à ce que l'Esprit de Dieu soit rentré en elles, et je lui parlerai jusqu'à ce qu'elle ait compris ces choses. Où je ne vais pas la forcer, de toute façon on ne force personne. Dieu n'a forcé personne, ce n'est pas nous qui allons le faire. On ne va pas forcer les gens, mais ne serait-ce que de prier, ne serait-ce que de rendre le témoignage qu'on peut. Si elles ne veulent pas, on ne force pas, on dit écoute, le jour où tu as besoin, tu viens et on parlera. Le jour où tu seras en difficulté, sache que moi je serai là pour toi. Et sache que je prie pour toi. Parce que Dieu t'aime. Et parce qu'il t'aime, je t'aime aussi. Tu as de la valeur à mes yeux. Je te veux heureuse, je te veux heureux pour le Seigneur. Ça, c'est notre pas. Et peut-être que quelqu'un est de l'autre côté. Peut-être que quelqu'un n'est pas comme Ézéchiel qui a rencontré le Seigneur. Peut-être que quelqu'un cet après-midi est tout nouveau, vient pour la première fois ou n'a pas encore fait cette expérience, non pas une expérience, mais l'expérience de la nouvelle naissance. Peut-être quelqu'un peut dire, mais oui, c'est vrai, moi je ne suis pas encore au Seigneur. De toute façon, je ne connais rien de lui. Je ne connais rien, juste ce que la coutume, la culture a bien voulu me laisser entendre. Eh bien, sachez que si vous avez l'impression dans votre cœur qu'il y a comme une sécheresse, un vide, quelque chose qui fait que vous ne vous épanouissez plus, vous n'avez plus d'espoir dans la vie, vous ne savez pas pourquoi vous vivez, sachez que le Seigneur a un plan merveilleux pour vous. Et pour vous, votre vie, ça ne sert plus à rien, c'est sec, ça ne vaut plus rien. Mais le Seigneur a encore un regard d'espérance sur vous. Et il vous dit, crois-tu que tu peux revivre? Crois-tu que tu peux recevoir la vie de Dieu? Dieu a créé l'homme, et quand il l'a créé, il y avait un lien fort entre eux. Il y avait cette pureté, la sainteté de Dieu. Et l'homme, quand il a été créé pur, sans péché. Et du coup, la vie de Dieu, cette qualité de vie, la vie éternelle, était déversée dans l'être humain. Mais un jour, l'être humain a péché. Et le péché a fait une rupture dans cette vie qui coulait. La vie n'a plus pu couler. Et l'homme s'est mis à vivre pour lui-même. L'homme s'est mis à vivre pour les joies éphémères de la terre. L'homme s'est mis à vivre pour les jouissances éphémères de cette terre. Et il a cru qu'il s'en sortirait comme ça. Et puis le vide est entré, le péché a gagné du terrain, etc. Et l'homme est resté séparé de Dieu. Et parce que Dieu aime les hommes, il a envoyé son Fils pour rétablir, réconcilier l'homme avec lui. Et ce que le péché avait brisé, Jésus-Christ l'a reconstitué, l'a restauré, l'a réparé. Et aujourd'hui, depuis que Jésus est mort sur le bois de la croix, qu'il a offert sa vie en sacrifice, qu'il a pris nos péchés sur lui et qu'il s'est offert lui-même, lui qui n'avait aucun péché, alors... Depuis ce jour-là, l'homme est de nouveau réconcilié avec Dieu et peut de nouveau recevoir la vie de Dieu en lui. Et de mort qu'il était devenu à cause du péché, il revient à la vie à cause du pardon des péchés en Jésus-Christ. Et Jésus qui est mort pour nous, mais il est ressuscité et il est vivant. Et à chacun de ceux qui disent à Jésus, pardonne-moi pour mes péchés qui ont fait que tu as dû être crucifié. Pardonne-moi pour mes péchés qui ont fait que tu as souffert l'ignominie de la croix, ma honte que j'aurais dû avoir devant Dieu lorsque je serais mort et que je me serais présenté pour rendre compte de ma vie, ma honte, tu l'as portée sur le bois de la croix. On t'a craché au visage, on t'a frappé, on t'a mis une couronne d'épines et tu n'as rien dit, tu ne t'es pas plaint. Les seules choses que tu as dit, c'est « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font ». La seule chose que tu as dit, c'est « j'ai soif de voir des âmes être sauvées ». La seule chose que tu as dit, c'est « oui Seigneur, tout est accompli ». Tout est fait, rien d'autre à ajouter. Jésus a dit ces choses pour que nous sachions que c'est par lui qu'on peut être sauvé. Et si quelqu'un avait comme ça cette sécheresse dans son cœur, plus le goût de vivre, plus l'envie de vivre, plus de compréhension de son existence, le Seigneur veut nous rappeler par cette parole qu'à Dieu rien n'est impossible. Peu importe les circonstances, même s'il y avait des milliers de morts, le Seigneur peut les ressusciter. Qu'est-ce qu'il y a de plus dur que de ressusciter quelqu'un ? Guérir, l'homme s'y emploie. On a des médecins. Au pire, on met une béquille. On met des palliatifs. Mais ressusciter un homme, qui peut le faire? Personne ne sait le faire, sauf Dieu. Il a ressuscité son fils. Il y a eu d'autres personnes qui ont été ressuscitées, Lazare, etc., qui ont été ressuscitées dans la Bible. Tout ça pour qu'on croie aujourd'hui, qu'on croie. Que même dans notre situation qui paraît morte, qui paraît impossible à surmonter, le Seigneur peut nous aider à revivre, à relever la tête, à relever notre corps et à vivre pour une nouvelle vie, une nouvelle raison, un nouveau but, pour quelque chose qui vaut la peine. Et quand on est enfant de Dieu, il y a une joie, il y a une satisfaction, parce qu'on sait qu'on a fait le bon choix. On ne l'explique pas, on en est convaincu. On a cru à la parole et la parole s'est confirmée dans notre vie. Et plus on vit de jour en jour, d'heure en heure, bien sûr il y a des épreuves, je ne dis pas que la vie chrétienne, la vie avec Dieu, c'est un long tapis rouge sur lequel on marche, molletonné plusieurs centimètres d'épaisseur, qui fait qu'on ne se blesse pas les pieds quand on marche, c'est pas ça. La vie, il y a des épreuves, la vie, il y a des difficultés, mais une chose est sûre, c'est que même dans les difficultés, le Seigneur est avec nous. Il nous accompagne, il ne nous abandonne pas. Et quand on va mal, on a quelqu'un à qui se confier, quelqu'un dont on sait qu'il ne nous abandonnera pas parce qu'il nous aime. Qui peut dire, de qui pouvez-vous avoir l'assurance que jamais il ne vous abandonnera? Et même si quelqu'un vous aimait comme votre époux, votre épouse, ou mieux encore, j'en sais rien, même si quelqu'un était vraiment attaché à vous, qui vous garantit que demain il sera en vie? Parce qu'on n'est tous que des êtres humains. Et la parole de Dieu dit qu'on n'est qu'une vapeur qui paraît et qui disparaît, qu'une herbe qui croît pour un temps et puis qui sèche, et le lieu où elle était ne la reconnaît pas, etc. La seule personne sur qui on peut compter vraiment, et qui nous aime jusqu'à dans l'éternité, d'un amour qu'on ne connaît pas sur la terre, c'est le Seigneur Jésus et le Père qui est dans le ciel. Jésus est venu de la part du Père pour nous sauver. Dieu s'est incarné dans Jésus pour donner sa vie pour nous sauver, pour effacer tous nos péchés, le péché nous séparer, Jésus nous a réconciliés. Et celui qui croit en Jésus, alors de mort qu'il était spirituellement, il revient à la vie parce qu'à nouveau, la vie de Dieu peut couler en lui. Cette qualité de vie. Quand vous serez malade, vous pourrez dire, mais j'ai quelqu'un à qui confier ce fardeau de ma maladie. Quand j'ai mal, j'ai quelqu'un à dire, Seigneur, j'ai mal, viens apaiser mes souffrances. Quand j'ai le cœur en souffrance, le cœur qui est inquiet, j'ai quelqu'un à dire, Seigneur, tu as dit de ne pas m'inquiéter, mais de te faire connaître mes besoins. Alors, je choisis de te faire connaître mes besoins. Et comme par hasard, la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, vient dans mon cœur et me rappelle ce que Jésus a fait pour moi et ce que Jésus va faire pour moi, puisqu'il est dit qu'à tous ceux qui ont cru, à tous ceux qui ont confessé leurs péchés, à tous ceux qui ont fait la paix avec Dieu, qui ont cru en Jésus-Christ, qui croient qu'il est vivant aujourd'hui, Jésus est allé préparer une place dans le ciel, dans le paradis, dans le ciel, oui, et qu'un jour il viendra chercher cela. Il les ressuscitera, il les emmènera avec lui dans le ciel, et on passera l'éternité dans sa présence pour des choses merveilleuses. Je ne m'étalerai pas, ce n'est pas le sujet cet après-midi. Mais une chose est sûre, il y a de bonnes choses qui sont préparées pour ceux qui croient en Jésus-Christ. Peut-être la situation est morte à vos yeux, peut-être ça ne vaut plus la peine, peut-être que vous êtes au bord du suicide. Le Seigneur vous dit, je t'aime, j'ai donné ma vie pour toi, crois en moi, et une vie nouvelle va couler en toi. Confesse tes péchés, abandonne tes péchés. Oui, et moi, je te donnerai ma présence, je te donnerai ma protection, puisqu'il est dit que Dieu est le protecteur, je te donnerai ma grâce, ma joie, mon amour, ma paix, toutes ces choses. Vous lirez la parole et vous découvrirez tout ce que Dieu a prévu pour vous, et vous repartirez le cœur joyeux, plein d'assurance, dans l'amour de Dieu et dans l'avenir, puisqu'il est dit que Dieu connaît les projets qu'il a formés sur nous, projets de paix et non de malheur, afin de nous donner un avenir et de l'espérance. C'est écrit dans Jérémie, chapitre 29. Et verset 11. Amen. Merci Seigneur. Parce qu'à tous les hommes, tu leur dis que tu les aimes. Merci Seigneur, parce qu'à chacun d'entre nous, tu nous dis qu'on a de la valeur à tes yeux. Personne n'est mis à l'écart. Aucune situation n'est trop désespérée pour que tu ne puisses nous venir en aide. Peut-être quelqu'un a connu ta grâce, mais est parti. Seigneur, tu lui redonnes la vie, tu le pardonnes à nouveau, si dans son cœur, il se tourne vers toi. Et encore à nous qui sommes sauvés, tu nous montres que tu ne nous as pas sauvés pour vagabonder sur la terre, mais qu'on a une mission, une belle mission, celle de partager, Seigneur, ce qu'on a reçu, celle aussi de participer au salut de notre prochain, de ceux qui nous entourent et du monde entier. Puissions-nous ne pas nous taire, Seigneur, puissions-nous comprendre quelle est notre mission. Merci, Seigneur, pour tous les cœurs qui croient à cette parole cet après-midi, qui croient à ta parole. Oui, tu les bénis. Et face à leur foi, tu honores leur foi et tu leur donnes une assurance, une paix qui ne trompe pas, de l'espérance. Merci, Seigneur, parce que dans ce monde, tant de personnes sont désespérées. Et toi, aujourd'hui, tu nous proposes, Seigneur, des plans merveilleux pour chacun. Oui, Seigneur. Tu connais les cœurs qui se tournent vers toi, tu connais les besoins qui sont dans les cœurs, tu sais à quoi pensent certaines personnes. Si Dieu pouvait m'aider dans tel ou tel domaine, s'il te plaît, réponds à leurs besoins. Merci Seigneur. Amen.